À l'occasion de la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme, du 21 au 28 mars, Radio Ondaine vous invite à écouter une série d'émissions avec des acteurs locaux de terrain œuvrant chaque jour autour de ce thème. Aujourd'hui, c'est avec Élodie Hébrard, chargée de mission numérique, éducation et citoyenneté à la Ligue de l'enseignement de la Loire, que nous discutons de ce monde numérique, source d'informations infinies, dont les contenus sont souvent difficiles à appréhender. Elle anime des ateliers pour comprendre les notions de désinformation, discrimination au sens large et du rôle que chacun peut jouer, notamment dans les veilleurs de l'info. Des ateliers pour des professionnels et surtout tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés.
Alors effectivement, il y a plusieurs niveaux d'intervention dans ce qu'on peut proposer. Nous, notre axe, c'est vraiment d'éduquer au numérique et d'éduquer par le numérique sans cibler vraiment d'âge. L'éducation, elle est pour tous. Après, vous avez raison, on ne va pas forcément aborder les choses de la même façon avec un public senior qu'avec un public jeune qui, en apparence, a une plus grande maîtrise des outils numériques. On s'aperçoit que dans les faits, ce n'est pas toujours nécessairement le cas. Ils ont une maîtrise en surface, mais en profondeur, il faut quand même les outiller un petit peu plus. Donc nous, on propose, on a différents champs d'intervention. Les seniors, on va être par exemple sur un accompagnement plus en lien avec les bonnes pratiques, les bons usages, en lien avec la santé. On va aussi, on a tout un accompagnement de nos bénévoles dans le cadre de nos associations affiliées. Donc on va les accompagner à mieux communiquer sur les réseaux sociaux dans le cadre de leur fonction de bénévole. Et puis pour les plus jeunes, on va être sur, on va décliner plusieurs projets. Je pense notamment à un projet très intéressant qui s'appelle Les Veilleurs de l'Info, où on traite de la question des fake news et des théories du complot, et on aborde avec les jeunes le comment on s'informe sur Internet, comment on adopte les bons réflexes dans le cadre de la recherche de l'information.
Alors si l'on s'arrête sur ces interventions et notamment autour des veilleurs de l'info, mais peut-être même plus largement, quand on intervient vers un jeune public, quels sont les moyens et les leviers que vous actionnez pour faire prendre conscience de votre intervention finalement et de votre présence face à eux?
Alors dans le cadre typiquement de ce parcours, en fait on a des séances clés en main qu'on a fabriqué où on s'appuie sur des animations, on a des outils, donc on leur fait chercher en direct si des informations sont vraies ou fausses, sans internet d'abord, juste avec leur bon sens, leur sens critique, et puis ensuite on leur permet d'accéder à internet pour aller vérifier clairement s'ils s'étaient trompés ou pas. Donc beaucoup sont étonnés finalement de ce qu'ils avaient déterminé au départ, donc ils étaient prêts à faire circuler sur les réseaux sociaux, à partager des fausses informations au premier abord. Voilà, donc on a plein d'autres outils comme ça. On fabrique une théorie du complot aussi avec eux, avec l'idée de pouvoir faire un petit film. Et là, ils prennent conscience, entre guillemets, de la facilité qu'il y a à justement manipuler l'information et à véhiculer quelque chose qui n'est pas vrai. Ils en prennent conscience. Et en même temps, ils prennent aussi conscience que c'est facile à démonter quand on s'y intéresse un petit peu et quand on va chercher, quand on prend, on va dire, 2-3 minutes la peine de chercher les sources, la vérification de sources.
Alors, si l'on parle de vos interventions, encore une fois, elles se déroulent sur quelle durée? Est-ce que c'est au coup par coup ou est-ce que vous allez vers un groupe intervenir plusieurs fois pour essayer de balayer un peu toutes vos compétences au niveau de vos formations?
Alors, dans le cadre de nos interventions, il y a plusieurs volets. On a de la formation des acteurs éducatifs. Donc, clairement, on décline tout notre parcours pédagogique, donc là en l'occurrence veilleurs de l'info, auprès des professionnels pour que eux-mêmes soient en mesure de décliner auprès de leur public adolescent. On a les interventions en face à face. Et là, j'ai envie de dire, ça dépend des attentes de la structure. Soit on intervient plusieurs fois, soit on intervient en one shot et on adapte l'intervention. Voilà, ça peut être du court terme, du long terme, dans le cadre d'un projet. Et puis, on a aussi, alors là, c'est un peu plus large que Veilleur de l'Info, hein, ce que je vais dire, mais des interventions plutôt en mode échange-débat, type conférence, où là, souvent, on inclut des temps de parentalité. Parce que dans tous nos projets, on fait vraiment le lien avec cette dimension d'éducation. Alors, il y a bien sûr tous les professionnels, tous les acteurs éducatifs, mais les parents ont aussi un rôle important à jouer. Donc, on essaie à travers nos interventions de pouvoir les impliquer.
Avec le numérique, Internet et tous les réseaux, on a tout un tas de termes qui apparaissent. On a le cyberharcèlement, on a les fake news aussi, hein, qui sortent la plupart du temps en version numérique, et de temps à autre aussi en version papier, voire dans d'autres médias. On a ces termes-là, on a également la protection de la personne. Finalement, aujourd'hui, on vit avec un téléphone portable, on prend des photos, on partage les photos, des photos sont partagées sans le consentement du sujet. Comment on arrive à faire le tri dans tout ça? Comment on explique chacune de ces choses-là? Et puis, est-ce qu'on va vers le côté, si on parle de cyberharcèlement, est-ce que vous avez une formation du côté pénal sur les risques qu'on encourt quand on utilise pour nuire l'Internet?
Alors, pour rebondir sur votre question, effectivement, le numérique, je dirais qu'effectivement le numérique regroupe plusieurs choses au sens large. Hein. Vous avez parlé de cyberharcèlement, de protection des données, de droit à l'image. Donc effectivement, c'est des choses qu'on aborde dans nos interventions. Hein. On est numérique éducatif au sens large. Encore une fois, on va cibler au mieux les attentes et les besoins de la structure qui nous sollicite. Donc on a des thématiques sur le cyberharcèlement, la protection des données, tout ça. En termes de législation, on va dire ça comme ça, je pense surtout au cyberharcèlement, en fait. On a la chance, au niveau de la Ligue de l'enseignement de la Loire, d'avoir aussi dans nos services des structures médico-sociales. Donc, il nous arrive de faire des interventions qu'on appelle à deux voies, c'est-à-dire, moi, plutôt sur le côté numérique éducatif, avec la pratique, les bons usages, les codes, et puis psychologues, pédopsychiatres, qui, eux, ont notre formation et un côté aussi en lien avec la législation peut-être plus étoffé et qui vont apporter d'autres éléments de réponse là-dessus. On a déjà fait ça d'ailleurs dans le cadre d'un projet sur un secteur politique de la ville dans le GIER pour la journée nationale du cyberharcèlement.
Alors, si l'on parle de racisme, cette émission est diffusée dans le cadre de la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Là, est-ce que, au-delà des veilleurs de l'info, il y a quand même des choses que vous pointez, peut-être sur le fait que ce que l'on peut écrire à un copain peut être discriminant et partagé, et ensuite on se retrouve dans une position d'amener des propos diffamatoires, discriminants, racistes sur Internet sans qu'on s'en rende compte forcément.
Oui, c'est quelque chose qu'on aborde au sens large. Alors effectivement, là, on fait le focus sur le racisme, mais nous, on va aborder ça de manière plus large avec tous les critères qui peuvent être discriminants. Je pense notamment à un autre projet qu'on a qui est très intéressant, qui s'appelle « La sexualité des ados à l'ère du numérique », où là, ce qui remonte en termes de partage sur les réseaux sociaux, c'est parfois des propos très discriminants envers les femmes. Ce projet Sexualité des ados à l'ère du numérique, c'est clairement comment les jeunes voient la sexualité et surtout comment ils y accèdent, entre guillemets, et malheureusement on voit que des très jeunes, de plus en plus jeunes, en général à partir de 9-10 ans, sont confrontés à des images ou des contenus porno sur Internet. Donc ils ont une vision de la sexualité qui n'est pas la réalité. Et une image assez dégradante est véhiculée dans ces films porno envers les femmes. Et là, on constate effectivement des attitudes très discriminantes envers les femmes et aussi d'autres attitudes discriminantes envers les personnes en situation de handicap, envers des personnes noires, maghrébines. Enfin, ça fait remonter plein de choses, donc ça amène effectivement de la discussion, beaucoup aussi de discrimination envers les homosexuels. Parce que voilà, ils tombent sur des vidéos où, eh ben, oui, enfin, y a des personnes du même sexe qui ont le droit de s'aimer. Et ça fait remonter des choses et des partages sur les réseaux sociaux. Et là, on aborde cette question, alors on va dire en essayant d'être le plus possible dans le débat. Mais voilà, c'est vrai que ces choses-là remontent et on essaie le plus possible, on va dire, de les accompagner et de leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train de dire et de ce qu'ils sont en train de partager.
Alors justement, cette prise de conscience, comment se fait-elle quand vous discutez, quand vous les interpellez? Quelle est l'attitude que vous avez en face? Alors on ne va pas dire qu'il y a un schéma type, mais qu'est-ce qui peut ressortir? Est-ce qu'on a du silence? Est-ce qu'on a aussi une parole libérée, tout aussi libérée que ce qu'on peut développer sur le numérique?
Alors là, je dirais que j'ai la chance d'avoir par ailleurs une formation en communication non violente. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil qui me permet d'être assez à l'aise dans le cadre de l'animation, de poser un climat non jugeant, bienveillant, où on peut effectivement se sentir libre de dire ce qu'on a à dire et en même temps de permettre de, à chaque fois de faire du lien. Je dirais c'est comme avec la laïcité, hein. Nous, voilà, on est très attachés aux valeurs de la République et de la laïcité. Donc on pose le cadre, par rapport à la loi, en fait, voilà, à cette référence-là. Donc oui, après, moi j'essaie aussi beaucoup de leur faire prendre conscience en se mettant à la place d'eux. Et en ciblant vraiment l'empathie, se mettre à la place de quelqu'un. Quand tu as ceci qui arrive, tu es derrière ton ordinateur, tu as cette publication qui t'arrive en face, comment tu le prends si c'est toi? Qu'est-ce que ça te fait? Comment tu le vis? Et enfin, après, on n'est pas dans la tête des uns et des autres, mais j'ai l'impression que ça fait du chemin. Quand on prend le temps réellement hein, et sincèrement d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un. De se dire là, tu partages quelque chose qui est clairement discriminant. Si c'était toi qu'on visait, comment tu réagirais? Voilà.
Alors là, on a la prise de conscience de ces jeunes et on va rester dans ce domaine-là. Vous évoquiez tout à l'heure l'accès à des contenus pornographiques, à des contenus discriminants vers les plus jeunes. Hein, vous évoquiez des 9-10 ans. On évoque là aussi la parentalité, le contrôle et comment vous agissez dans l'autre sens. Est-ce que vous rencontrez des parents? Vous faites effectivement des rencontres avec des parents, mais sur les interventions enfants, est-ce que vous demandez aussi aux enfants d'en parler à leurs parents ensuite après vos rencontres?
Oui, effectivement, nous, on essaie d'être le plus possible en lien avec les parents et les enfants, des interventions déconnectées que ciblant les parents ou que ciblant les enfants, c'est toujours ça de pris, on est bien d'accord, mais ça a beaucoup plus de sens quand il y a du lien entre les deux. L'éducation, voilà, hein, c'est ça le principe. Donc typiquement, par rapport à ce projet Sexualité des ados, par exemple, on a des temps d'échange avec les parents, hein, concernant, bah voilà. Alors là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on cible un peu plus les adolescents, mais et effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a des très jeunes qui peuvent avoir des accès très très faciles à ces contenus-là. Donc, on voit avec les parents comment ça se passe à la maison. On essaie à des moments d'avoir des interventions communes, parents-enfants, parce que là, c'est très révélateur. Hein, les enfants sont assez transparents dans les échanges et il y a des choses qui ressortent et effectivement, ça permet de rebondir dessus. Alors c'est un peu plus difficile d'avoir ces temps-là, ne serait-ce que par rapport à une problématique d'agenda, mais on essaie, en tout cas on essaie de le favoriser. Et puis on essaie aussi d'être en lien, par exemple de faire une activité ou plusieurs activités, enfin dans le cadre d'un projet avec des enfants, d'inviter les parents à voir lors d'un temps d'échange débat la production des enfants. Ça peut être un petit film, ça peut être une BD, ça peut être n'importe quel support. Comme ça, il y a du lien. Ça concerne leurs enfants, donc ils se sentent impliqués. Et on essaie de rebondir sur tous les contenus qui ont été abordés.
Alors si, pour terminer, vous avez des conseils à donner à des parents qui écoutent cette émission-là, parce qu'on va parler de ce côté-là éducatif aussi, et de la transmission, et puis de l'accompagnement, quels seraient ces conseils-là sur la bonne utilisation, entre guillemets, des outils numériques qu'on met à disposition de nos enfants?
Alors déjà, moi je dirais pour rassurer les parents, parce qu'on est tous pareils, avec une petite citation, les parents parfaits n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de parents parfaits. Je dirais que la chose importante, c'est de se questionner et d'être le plus possible en communication avec son enfant. Le fait de... Alors, bien sûr, à chaque âge, il y a des mots, ça évolue au fil des années, mais de s'intéresser aussi. On sait que bah voilà, les enfants, un jeu vidéo, c'est un temps de jeu qui va être partagé avec son enfant, comme le Monopoly. Donc, de s'intéresser aussi un petit peu, à même si c'est pas toujours... très séduisant pour les parents parce qu'on n'a pas connu ça, hein, c'est vrai, on ne fait pas partie de cette génération-là, mais il y a aussi des chouettes entrées avec le numérique. L'idée, ce n'est pas de diaboliser le numérique ou au contraire de le mettre sur un piédestal. Ça reste tout ce qui est autour du numérique. On a des outils qui sont au service de quelque chose. Et après, j'ai envie de dire, effectivement, on n'a pas nécessairement tout le temps la maîtrise, mais déjà d'avoir cette vigilance et cette alerte sur, on va dire, le temps passé derrière l'écran, voir que son enfant fait autre chose. En fait, là où on commence à s'enfermer dans une pratique excessive, et puis c'est valable pour toutes les pratiques, c'est quand ça prend sur le pas sur tout le reste. Là, voilà, là après, il y a des choses. Et puis, pas hésiter à en parler à d'autres personnes, peut-être plus outillées aussi, hein, parce qu'on sent que voilà, la maîtrise nous échappe un peu. Après, peut-être aussi voilà, des avis extérieurs, des professionnels extérieurs, ça peut être très intéressant. Mais je dirais, c'est vraiment, voilà, le conseil, c'est déjà d'observer son enfant, en fait. Voilà. C'est d'essayer d'observer son enfant. Après, on sait que, comment dire, on pense parfois très bien connaître ses enfants et on peut être surpris, mais on peut voilà, voir. Vraiment, je pense que le dialogue, la communication avec son enfant, de tout petit, en fait, il y a des choses. On s'éduque à tout âge et dès le plus jeune âge. Donc, c'est vraiment ça qui est important.